Est-ce qu'aujourd'hui, une campagne réussie se gagne sur Internet ?
Internet peut aider à réussir et à gagner une campagne, mais je ne crois pas que ce soit le lieu central de la campagne aujourd'hui qui reste la télévision, majoritairement. Ouais, je regarde Benoît là. Ce qui joue beaucoup sur Internet, c'est que ça transforme la manière de faire même la campagne à la télévision. C'est-à-dire que Internet devient une sorte de caisse de résonance de la réception des messages qui sont adressés aux Français par les moyens de masse traditionnels comme la télévision. D'où le fait qu'il y a une sorte de réception qui se commente. On est devant la télé puis on commente ce qui est en train de se faire sur Twitter. Et comme les journalistes sont tous sur Twitter, ils vont se servir des réactions sur Twitter pour imaginer l'état de l'opinion publique regardant le débat public à la télévision. Et donc, dans leurs interprétations, cette boucle qui se met en place entre la télévision, Internet, etc., devient un élément de la fabrication des messages politiques des candidats.
Donc la référence au niveau web campagne, c'est Obama. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché, alors que bon, Désir d'avenir était sans doute une bonne initiative, mais qui n'a pas fonctionné en France? Quelle a été la différence stratégique qui a fait que en France, on n'y arrive pas avec le web? Et d'ailleurs, on revoit avec le lead-up qui sont faits et qui sont totalement ridicules.
Non, je vous trouve un peu sévère parce que depuis 2005, on sait que Internet joue un rôle important. Alors, est-ce que ça peut faire gagner? En tout cas, ça peut faire perdre. Et surtout, en fait, c'est devenu un incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut pas ne pas être présent sur Internet dans une campagne. Et il a pas fallu attendre Obama, d'ailleurs, pour que ce soit le cas en France, mais bien avant. La difficulté, en fait, aujourd'hui, pour vous répondre, c'est qu'en fait, je crois qu'on peut même plus tellement dire qu'il y a une campagne Internet d'un côté, puis de l'autre, il y a la campagne sérieuse des adultes, des grands, de l'autre. En réalité, quand vous organisez un meeting, l'essentiel de la mobilisation, les gens, ils vont le savoir. Comment qu'il y a un meeting hier, ça aurait été les courriers, les machins. Aujourd'hui, c'est parce qu'on va leur envoyer un mail. C'est ça qui va se passer. Ensuite, pendant le débat, pendant le meeting, il va y avoir des photos qui vont être prises. Les gens avec leur iPhone, ils vont faire des petits films. Puis ensuite, ils vont éventuellement le bloguer. Vous allez pouvoir, vous qui n'avez pas assisté au meeting, revoir en télévision de rattrapage sur le site du candidat la vidéo du meeting. Bon, qu'est-ce qu'est Internet là-dedans? Qu'est-ce qu'est numérique? En réalité, il y a un entrelacement total entre la campagne numérique et le reste. Donc je dirais qu'en fait, c'est difficile de vous répondre tout simplement parce qu'en fait, il y a une fusion. Il n'y a plus vraiment le off et le online. De manière très séparée. En réalité, il y a vraiment un entrelacement des deux. Et puis, comme le disait Dominique Cardon, aujourd'hui, ce qui est intéressant, un des phénomènes qui est intéressant, c'est que, et ça c'est une nouveauté je pense par rapport à 2007, on vit une campagne transmédia. Vous regardez la télé, mais en même temps, vous avez votre mobile dans la main, et puis vous regardez ce que les gens en disent sur Twitter. Et là, du coup, vous avez une très grande complémentarité. Chacun des médias fait ce qu'il sait faire de mieux. La télévision, ça reste le seul média de masse qui va diffuser massivement un message un peu court à l'ensemble des citoyens et qui va, du coup, prescrire l'agenda du débat public. C'est hyper important. Bon, en revanche, le débat à la télévision, il est nul. C'est quelques personnes et c'est quelques minutes qu'on va y consacrer. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'information qui descend, elle passe par les anciens médias et par la télévision, et c'est elle qui structure le débat public. Mais le débat public ensuite, il a surtout lieu sur les médias sociaux, parfois en parallèle d'une émission, sur Twitter, ça c'est un phénomène de live tweet transmédia typique, mais ça peut être aussi vous avez envie d'aller discuter avec vos amis sur Facebook ou autre. Vous voyez, il y a une recomposition et une très grande complémentarité en fait aujourd'hui entre les anciens et les nouveaux médias, et il n'y a plus vraiment d'opposition. Donc difficile de répondre, est-ce qu'on peut gagner avec Internet ou pas? En réalité, c'est qu'il y a une campagne dans laquelle Internet est complètement imbriqué avec le reste des outils et des plateformes.
Mais après, moi, c'est une observation que je fais, les débats en ligne, c'est entre gens qui ont l'air convaincus. D'ailleurs, ce débat, vous aviez l'air à peu près d'accord. Or, Caroline Boss, qui est professeure de sciences politiques à Rennes, nous faisait la remarque que les candidats, ils cherchaient pas déjà les gens convaincus, ils cherchaient les gens qui ne savent pas quoi voter. Est-ce que c'est peut-être pas une erreur de mettre autant sur Internet et pas trouver d'autres moyens pour accrocher ces personnes qui ne savent pas?
Oui et non, parce que, alors c'est vrai, vous avez raison, qu'il y a beaucoup de communautés qui restent au fond, de communautés entre soi. Moi, si je reste sur mes amis sur Facebook ou mon réseau affinitaire sur Twitter, si je vais discuter avec ces gens qui sont en dessus, souvent on va être un peu d'accord quoi. Mais bon, vous savez qu'il y a des tas d'autres endroits où vous pouvez discuter et vous n'allez pas forcément donc il y a des débats publics comme ça, hyper segmentés, hyper éclatés, qui ont lieu. Donc oui, je pense qu'effectivement il y a des phénomènes un petit peu, on va dire, endogamiques, mais il y a aussi pas mal de mixité. Vous savez, de toute façon, dans votre réseau d'amitié dans le monde réel, si vous êtes contre la peine de mort, 99% de vos amis sont contre la peine de mort. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas propre à Internet. C'est un phénomène humain, sociologique, qui se recouvre partout. Et d'ailleurs, je crois, mais Cardon le dira mieux que moi, je crois que les études qui ont été faites aux États-Unis, notamment il y a eu des grands débats avec le docteur de Clay Shirky à un moment donné, montraient qu'en fait, si on devait un tout petit peu trancher, le web était un peu moins endogamique que notre vrai réseau dans la vie réelle.
Oui, bah oui, oui. Tu, il a raison. Non, c'est un point de débat, effectivement. C'est est-ce que la vie réelle est homophile, on est lié à des gens qu'on connaît pour des raisons qui font qu'on partage les mêmes opinions, les mêmes avis, les mêmes goûts culturels, les mêmes habitudes de tourisme, etc. Donc c'est, ça se reproduit beaucoup. Internet, il y a plus de curiosité. D'une certaine manière, ce qui fait Internet, c'est aussi l'idée qu'on se rend public, on circule dans des espaces d'échange d'informations, en partie pour être traversé par des informations qui ne sont pas exactement celles qu'on pourrait avoir par d'autres moyens habituels, qui sont ceux de nos propres amis. Donc quelques études montrent bien qu'on a, en fait, on est plus curieux sur Internet. Ceci étant, ça n'empêche pas, votre question initiale est complètement juste, c'est que de toute façon, on est dans le monde désintégré. Hein, et qu'il y a un univers important, déclin de la participation électorale, sentiment de désaffiliation complet, mise hors jeu des espaces politiques traditionnels, qui lui ne se retrouve pas du tout dans ces univers, qui est assez peu présent, qui est assez difficile à toucher par Internet en propre. Ce qui va peut servir, c'est l'organisation des militants pour effectivement faire du porte-à-porte, aller vers ces publics, mais ce qui est quand même objectivement assez difficile, tant que non plus ne sont pas pris en compte dans les débats politiques, publics, ou bien dans le choix des représentants pour les élections, des gens qui seraient plus proches des thématiques des milieux populaires, sociaux, socialement défavorisés, ou des populations qui sont très mal représentées en fait dans l'espace public aujourd'hui.
Et au niveau de la représentativité, c'est mon impression avec ce débat, c'est que Internet a mis en lumière un écart générationnel entre la population française et ses classes dirigeantes. Est-ce que tout bêtement, faut pas attendre qu'ils partent en retraite ou que...
Si, bien sûr. Mais c'est un des problèmes de la société française de manière plus générale, c'est qu'elle a énormément de mal à renouveler ses élites et que effectivement ça se voit de manière criante lorsqu'il y a des changements profonds dans la société et on vit des révolutions qui déconnectent beaucoup les élites qui l'ont pas vécu de la société qui est en plein dedans. Et oui, bien sûr que c'est un vrai sujet. Enfin, il faut juste attendre. Ou alors il y a aussi un autre truc quand même, le débat qu'on a eu là montrait aussi qu'aujourd'hui il y a un renouvellement quand même profond du champ de l'action politique qui se construit en dehors des institutions politiques et strictement de la démocratie représentative. C'est quand même aussi un espace d'espoir quand même. Hein. Je veux dire, encore une fois, vous pouvez monter des opérations qui vont changer le monde ou qu'on va transformer, peser sur des grandes institutions sans passer par un mécanisme démocratique de représentation. Donc c'est quand même intéressant. Hein. Il y a aussi d'autres leviers et ceux-là, on n'attend pas, on n'a pas forcément besoin d'attendre qu'il y ait une génération de digital natives qui prennent le pouvoir pour que ce soit le cas.
Je suis entièrement d'accord, mais il ne faut pas non plus survaloriser la dimension générationnelle, parce qu'on voit bien, ça devient aussi un effet de mode, un peu une idéologie, etc. Les digital natives sont plus habiles et plus adroits dans l'utilisation des techniques. Ils ont sans doute un rapport à la hiérarchie, à la délégation qui est un petit peu différent, mais ça mériterait d'être prouvé, hein, parce qu'on a des études qui montrent que quand ils rentrent dans les entreprises, les fameux digital natives, ils se tiennent à carreau. Ils ont été en échec sur le marché du travail pendant tellement longtemps que c'est pas des virtuoses. Hein. C'est plutôt la génération d'au-dessus, hein, qui, elle, est plus active, etc. Donc, c'est plus compliqué, à mon avis, que ça. Et c'est même plus compliqué dans la classe politique, parce qu'on sent bien que Alain Lambert, c'est pas un genou, hein, mais c'est un des blogueurs actifs et surtout réguliers. C'est-à-dire que lui, il n'est pas juste pour la campagne électorale à faire un blog et puis beaucoup de tweets. Il y a des gens dans l'espace politique numérique qui sont actifs et dans lequel la dimension générationnelle n'est pas forcément présente. Il y a aussi plein de composantes. Et il y a aussi, je le dis comme ça pour faire un peu... Il y a aussi des clivages qui sont liés aux enjeux culturel et politique de l'Internet. Et on voit bien, moi je suis fasciné quand même, le débat sur la propriété intellectuelle, le débat sur ACTA, comme Benoît l'a dit dans le débat, il clive tous les partis un par un, hein. Et c'est pas un truc aussi facilement droite-gauche. On voit bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se joue, mais c'est plus compliqué chaque fois, que les intérêts sont très différents et que du coup les intérêts liés à l'idée d'une culture partagée et commune, qu'on puisse échanger dans des formats qui sont un peu nouveaux et qui ont été portés par les hackers, puis les jeunes générations, les pratiques sociales qui se font aujourd'hui autour du partage des contenus, ils sont repris de façon très différente par les partis, quelles que soient les générations.
Je voulais en revenir en fait à la campagne transmédia, donc qui mêle tweet, blog, Facebook. Est-ce que tout cela, ça peut modifier les rapports de force entre politique et citoyens, ou bien citoyens et entreprises?
Moi, je pense que ça modifie. En fait, c'est pas tellement les rapports de force. Ce en quoi ça joue, c'est que dans l'espace public traditionnel de l'élection, les individus devenaient citoyens par la magie du rituel électoral. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, la politique, elle ne prend plus les individus depuis leur rôle de citoyen. Elle les prend depuis leur vie individuelle. Donc ils disent des bêtises à leurs gamins, à leurs copains, ils rassurent leurs gamins, ils se fâchent avec leur chef, ils font tout ça sur Facebook, etc. Mais aussi ils ont envie de parler de politique, ils ont envie d'échanger politique. Donc la dimension de l'engagement ou de la citoyenneté, elle part de l'expérience concrète, très quotidienne, hein, des individus. Et du coup, c'est cette frontière entre le citoyen, le consommateur, le client, le salarié et puis le copain qui est très très flou et qui crée ce côté aussi un peu désinhibé et un peu étrange de la parole sur Internet. On envoie des tweets très sérieux, puis tout d'un coup on envoie une blague, puis tout d'un coup on envoie un message codé à sa copine, puis tout d'un coup on envoie... Voilà, on fait plusieurs choses depuis le même lieu d'énonciation. Qu'est notre, nos petites pages perso d'Internet et de Facebook. De temps en temps, il y a des choses qui nous concernent dans notre rapport aux médias, à la politique, etc. Puis des choses qui sont très différentes. Ça change. Et c'est d'ailleurs comme ça que les nouveaux stratèges de campagne envisagent de faire rentrer la politique dans la conversation des individus. Donc toute la LOL politique, hein, cette tentative de viraliser des contenus dans lesquels il y a un message, mais en même temps, il y a beaucoup d'humour, ce qui fait qu'on ne sait pas si... On va le partager parce que ça nous fait rire ou bien parce que ça dit que la politique fiscale de Sarkozy est idiote. Voilà, on va ironiser et transformer ça comme ça. Je pense que le meilleur signal de ça, mais depuis longtemps, c'est le petit journal de Canal+. C'est-à-dire c'est longtemps qu'on a installé un espace qui est en fait un espace de critique politique, mais sous une forme humoristique. C'est-à-dire qu'on a joué sur la double identité de l'individu et du citoyen.